Cucul, épisode spécial Cyberéco. Je suis avec Jonathan. Comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien en ce matin presque ensoleillé.
Étonnamment, on commence à avoir de la mauvaise température à Montréal, mais très malheureusement. Tu viens présenter à Cyberéco sur l'univers de l'application et comment le AI va le transformer. Fait, je vais te laisser démarrer avec ça, puis ensuite je vais enchaîner avec des questions.
On nous a demandé dans le fond de regarder le futur, mais le futur c'est maintenant avec l'intelligence artificielle. La sécurité applicative est quand même mon sujet favori ou du moins le truc que je travaille le plus. Et puis, en mélangeant les deux, je suis arrivé avec un talk qui s'appelle « Les stratégies de sécurité applicative adaptées à l'IA ». Donc, en gros, je vais juste proposer des stratégies qui vont à la fois répondre à l'utilisation de l'IA et à la fois utiliser l'IA pour répondre à ça, parce que de toute façon, manuellement, moi, je m'en sors plus.
Ouais, c'est impossible de s'en sortir avec le volume de code qui sort dans l'AI. Génère le problème qu'on n'a plus du AI pour le contrôler parce que la quantité de volume qui sort, on n'est juste plus capable humainement de rester sain d'esprit à lire tout ce qui sort.
Ouais, il y a un des points que je fais là-dedans qui est justement, tu sais, les gens, ils veulent savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est quoi les limitations de l'IA. Moi, je fais juste dire, il n'y en a pas, mais l'être humain, ils ont leurs propres limites. Puis les affaires comme ça, tu sais, le stress d'avoir une charge de travail immense, à un moment donné, l'être humain va se dire, moi, j'en ai assez. Fait que même si toi, tu fais un logiciel qui est fait pour des êtres humains en bout de ligne, eux autres vont dire, moi, je suis juste capable d'absorber autant d'informations, je suis juste capable de faire autant d'interactions, donnez-moi-en pas plus parce que ça ne va plus me tenter, je vais devenir épuisé, fatigué. Présentement, moi, personnellement, je le sens un peu. On l'a vu, tu sais, dans une des stratégies, genre comme que j'ai, admettons, c'est de réviser avec l'IA puis de produire de l'information à partir de l'IA. Tout le monde fait ça. Puis on l'a vu dans des programmes de bug bounty qu'on a shutdowné, le bug bounty de Curl, qui est comme en ligne, qui était ouvert à tous, mais les gens utilisaient l'IA pour leur envoyer des bug reports. Puis le problème, c'est qu'ils en recevaient tellement qu'à un moment donné, on était comme, on n'est juste plus capable de trier ça. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas utilisé l'IA pour trier, mais à un moment donné, quand tu as un système comme ça, que ça fait 10-20 ans que tu maintiens, tu le connais quand même pas mal par cœur, fait que tu es peut-être meilleur que la plupart des IA que tu pourrais installer dans un temps, tu sais. Mais ouais.
Ouais, effectivement, c'est sûr que quand tu as une connaissance profonde du code, c'est beaucoup plus facile d'arriver avec ces rapports-là. Mais ces rapports-là, tu sais, puis ça, je trouve ça un peu triste en même temps que ce qui est arrivé dans ce moment-là, puis un peu... La façon que les gens l'utilisent de façon toxique, parce que ça, c'est une mauvaise utilisation de l'IA pour aider, disons, dans le cas-ci, c'est de trouver, faire de l'argent rapidement, parce que c'est notre problème de bug bounty, donc c'était juste assez de cacher la machine le plus vite possible en sortant le plus de cochonneries. Et là, le fardeau est sur les humains qui sont de l'autre côté. Puis même, comme tu le mentionnes très bien, je ne suis pas sûr que l'IA serait capable de trier avec une aussi grande efficacité que l'humain qui, ça fait, dans le cas de Curl, ça date de l'IA. Vraiment très longtemps. Je ne serais pas capable de trier ça aussi bien que l'humain qui a fait ça depuis très longtemps.
J'y crois quand même à court ou à moyen terme que l'IA va pouvoir se rendre là. Le problème, c'est que ça prend des gens qui sont vraiment capables de l'aligner. Donc, dans le fond, il y a des compétences qui devraient être acquises qui ne sont pas juste de ton logiciel, de la sécurité, de la programmation, puis les trucs comme ça, qui sont aussi de dire, moi, je comprends l'interaction, exemple, dans le cas du LLM, la manière de faire un prompt, la manière d'y donner de l'information pour qu'il puisse de se sourcer là-dessus et répondre. Donc, de jusqu'à temps qu'on arrive à un point que les gens ont tous ces concepts-là, ils ne seront jamais capables de produire un IA qui sont meilleurs ou égales ou proches de leurs compétences qu'ils ont depuis des années, parce que l'IA elle-même, c'est une nouvelle compétence qu'on a. Du prompting, v'là 5 ans, je pense pas que je faisais ça là.
Je pense pas qu'il y a grand monde qui faisait du prompting il y a 5 ans, mais ça l'amène aussi le problème connexe, c'est que comme les moteurs, ou en tout cas les modèles frontières sortent sur une base assez régulière, et chaque fois qu'on a un modèle frontière qui sort, le prompting change parce que le modèle ne réagit plus de la même façon, donc ça crée une forme d'irritation. Et entre les différents modèles frontières, on ne peut pas les prompter de la même façon parce qu'on n'obtiendra pas les mêmes résultats sur chacun de ceux-ci. Fait qu'on a comme une compétence éphémère parce que quand le modèle frontière change, tu perds un peu ta compétence tout le temps. Fait que c'est un peu une course folle de devenir un prompt engineer.
Oui, mais en même temps, moi j'aime bien la diversité dans les idées et l'intelligence. Puis le fait d'avoir plusieurs systèmes qui sont en compétition comme ça, puis qui font les choses différemment, moi, j'aime ça de parce que tout est à la même place. Tout le monde utiliserait le même modèle, qu'on aurait tous les mêmes résultats. Ça serait plus difficile de se différencier, donc plus difficile de faire de la compétition. Donc là, genre ça, c'est une affaire que j'aime, mais effectivement, si tu veux être bon, de tout savoir les détails que là, de cette IA-là est meilleur que lui à faire ça, il y a moyen de suivre ça, mais ça devient quasiment un job à temps plein de prompt engineer, de pouvoir savoir que, OK, aujourd'hui, je fais une revue, donc la revue, elle est mieux dans ChatGPT 5.5 ou je ne sais plus quelle version qu'on est, je pense que c'est ça. Si tu prends Claude Opus, le 4.7, le nouveau qui est sorti la semaine dernière, lui, il va être meilleur pour écrire le code. Donc, il y a moyen de se tenir à l'affût comme ça, mais si c'est vraiment, on passe du temps à chaque semaine puis à suivre de chaque lancement de modèles majeurs, puis même les modèles mineurs, là, parce que les majeurs, comme mon petit Opus que j'ai parlé, il me coûte 3x de token, il coûte cher, alors que là, il y a Gemma 4 qui est sorti, qui est pas mal moins cher. Donc, d'être aussi en fonction de suivre pour diminuer ou du moins maximiser votre utilisation du LLM pour que les coûts soient à la bonne place, ben tu sais, comme c'est un travail en soi. Fait que là, moi, tu sais, je suis supposé de faire ma job de sécurité applicative en même temps, mais en même temps, il faut que je suive les trucs des IA. Fait qu'à peu près tous les gens, ils sont tous en train présentement de se focusser sur on va apprendre les affaires de IA. Moi, je veux juste dire, OK, oui, faites ça. Mais n'oubliez pas vos compétences puis n'oubliez pas d'apprendre des choses qui sont fondamentales, à savoir la technologie, sinon on va perdre le contrôle.
Ouais, puis justement, parlant de connaissances fondamentales, c'est une belle façon de poursuivre la conversation. Moi, je suis très inquiet sur ce qui s'en vient parce que je pense que le vibe coding ou le slop AI ou peu importe comment on veut le nommer, nous amène dans un chemin de paresse. Et moi, ça m'inquiète énormément en termes de capacité, de compétences. On peut être de prompt engineer, c'est déjà un job à temps plein de savoir comment faire ça. Faire du vrai et bon code et de la vraie et de la bonne revue de code, ça demeure une compétence qui est fondamentalement humaine. Et à ce moment-là, si on perd cette capacité-là, on devient un peu comme dans Wall-E, on est juste sur des lits flottants et ça est notre vie.
Ouais, ben, tu sais, c'est... Le problème, que je pense pas qu'il y en ait un, parce que les gens aiment ça faire ça, mais on doit rester critique, OK? Donc, les gens aiment ça pouvoir critiquer les systèmes, dire que telle affaire marche bien ou pas. Puis à un moment donné, si on parle justement de ces compétences-là qui sont fondamentales ou même pointues sur des points de la technologie que l'LM n'a peut-être pas été entraîné dessus, puis que ça demande un peu plus de réflexion que de juste régurgiter des choses, ben on arrive avec un besoin de former les gens ou du moins que les gens gardent leur intérêt. Puis effectivement, si tu te fais tout régurgiter tout cru dans le bec, tu vas jamais pouvoir faire l'effort parce que apprendre, c'est de quoi qui est un petit peu douloureux. Puis juste de se faire donner des choses puis que tout fonctionne du premier coup, c'est fantastique. Le problème, c'est que la journée que les choses ils tournent moins rond, OK, qu'il y a un bug, il y a un truc qui est arrivé, puis là, on se demande pourquoi. Si on n'a plus les compétences et qu'on n'a plus rien appris, on va juste se fier à un IA qui va nous dire moi, je pense que j'ai tout fait correct. J'ai un exemple hier quand j'ai littéralement. Avant hier, quand j'ai littéralement révisé mes slides, OK? J'ai demandé OK, là, est-ce que tu peux me faire une révision? Puis il répond si, ça, ça. Puis là, à un moment donné, il y a comme un truc comme qui a manqué. Puis là, j'ai dit hey, en passant, je pense que tu as manqué ça. Puis là, il répond « Ah oui, effectivement, j'ai manqué ça. » Donc, tu sais, il est capable de répondre à la critique, ce qui est très bien, mais en même temps, être autocritique, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui. Donc ça, j'ai des stratégies dans mon talk là-dessus qui parlent de ça. Là.
Mais quel genre de stratégie justement qui nous amène à... Là, je pense que tu parlais dessus de plusieurs AI ou plusieurs ouais. modèles ou des choses comme ça. C'est quoi les stratégies que tu proposes justement pour éviter de s'enliser?
Oui. Si on reste justement, comme je disais tantôt, c'est pour ça que j'aime la diversité et que, genre, bon, oui, tu devrais quand même avoir des humains ultra compétents dans des sujets pointus, mais tu sais, tu vas juste pouvoir les utiliser pour une très petite partie. La majorité des gens vont devoir utiliser un IA versus un autre IA. Donc, autrement dit, aujourd'hui, je pense qu'il y a bien des gens qui le font parce qu'on a tout au moins 2-3 abonnements. Donc, de dire, ben, je demande au premier IA de valider le résultat du deuxième. Un truc qu'on peut aussi faire qui est intéressant, que je ne vois pas dans ces détails-là dans le talk, mais genre, dans le temps, le même modèle avec la nouvelle version va être meilleur. Donc, si on a fait des choses avec un plus vieux modèle de VLA, puis un vieux modèle de VLA 3 mois, quand tu y penses, hein, c'est ça, un vieux modèle. Donc, de juste prendre le nouveau modèle puis de faire réviser les choses, probablement qu'il va être meilleur puis qu'il va donner des meilleurs résultats aussi. Fait que même si ce n'est pas des modèles différents, une version plus récente aussi va aider à pouvoir se réviser puis à rajouter un sens critique à ce qu'on fait. Parce que le problème du vibe coding, c'est qu'on critique juste le résultat final. En sécurité, le résultat final est intangible et est invisible. Okay? Il n'y a rien qui se passe si la sécurité est bonne. Donc, si tu fais juste regarder ton produit final et tu dis « Oh, ben, c'est fonctionnel, c'est bon », puis que tu ne creuses pas pour la sécurité, tu ne te ramasseras pas là.
Oui, mais si on prend justement sur l'angle de la sécurité, puis on a vu quelques désastres publics de vibe coding, comment on peut arriver justement sur le fait de passer d'un produit, celui qui est le plus évident, c'est T, qui est un produit qui fonctionne, mais où la sécurité était en tout cas, littéralement absente parce que les bases de données étaient ouvertes sur Internet, tout ça. Comment on peut faire, que justement, le doute qui avait fait ça n'a aucune compétence. Donc, comment on peut se fier pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance en cyber pour avancer là-dedans?
La bonne nouvelle que j'ai là-dessus, c'est que je pense qu'on va s'en aller vers là parce qu'on n'aura pas le choix que les modèles vont être entraînés puis vont être augmentés avec des informations qui vont les guider à faire des logiciels de plus en plus sécurs parce que ça va devenir un avantage compétitif, je pense, à un moment donné. Donc, ils vont le faire. En attendant, disons que ça reste pas mal entre les mains de ceux qui l'utilisent. Fait que c'est une des stratégies que je propose, qui est carrément de dire, ben si vous avez genre des bonnes pratiques de sécurité de votre entreprise, chargez-les dans votre LLM au moment de la génération du code, au moment de la revue, puis regardez les résultats. C'est évident qu'il y a une job à faire de trouver de c'est quoi qui est pertinent à charger au bon moment, parce que si on en charge trop de un, on va dépasser les limites des tokens d'entrée. Mais si on trouve la bonne chose à mettre au bon moment puis qu'on l'exécute, les résultats sont fantastiques. Là. J'ai eu l'année passée avec Cybereco, on a fait une formation où est-ce que les gens apportaient leur code. Puis ils prenaient l'IA avec des prompts qu'on venait juste de leur montrer durant la formation. Puis là, ils ont chargé ça. Puis très rapidement, ils ont trouvé des choses. Ils ont compris de ce qui se passait parce qu'ils venaient juste de se faire donner de la formation littéralement sur le prompt que tu viens de donner au LLM. Donc, ils ne sont pas complètement perdus sur ce qui se passe. Puis les résultats ont été extrêmement bien dans le sens qu'en 15 minutes, il y a plusieurs des équipes qui ont corrigé des choses dans leur code base. Puis ça, je n'avais jamais vu ça avant. Être aussi rapide que ça pour trouver puis recorriger. Là. Donc, je pense que vraiment de guider l'IA avec des bonnes pratiques, la bonne documentation qui est en sécurité ou en sécurité applicative dans mon cas, c'est extrêmement puissant.
Oui, et là, si on fait une bascule vers Mythos qui a été sorti il y a quelques semaines, qui a créé beaucoup de bruit, qui est en train de la ballonne est en train de se dégonfler un peu parce que clairement, c'est un message marketing. Ce genre de modèle-là qui va arriver, qui va être utilisé par les développeurs ou les attaquants éventuellement, mais j'espère par les développeurs a priori, est-ce qu'il va y avoir un gain? Là, tu parlais d'une formation, puis là, ça fait quand même, c'est vieux, ça fait un an, donc c'est plus le même genre de choses. Comment ce genre de choses-là va évoluer et comment tu vois ça vers le futur, en tout cas dans 3 mois? Là?
Bon, notre formation, quand je l'ai l'année passée, c'était comme en fin novembre, fait qu'on était à, mettons, 5 mois, là. Mais Mythos, à ce que j'ai compris, parce que oui, les annonces marketing, mais si on va sur le blog red.anthropic.com, qui est le Red Team d'Anthropic, eux, ils ont vraiment listé plus dans les détails, puis etc. Là, ils vont pas vous donner les vulnérabilités, ils vont juste vous donner un hash de la description de la vulnérabilité en détail, pour être sûr que c'est eux autres qui l'écrivent. Mais genre, si tu cherches un peu, tu vois que dans le fond, que c'est vraiment, c'est du bon vieux Vulnerability Research, ou j'ai même oublié le terme, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ça, je pense. Dans le temps qu'on faisait du reverse engineering, des trucs comme ça, ou qu'on creusait très creux dans le code, ben Mythos est excellent pour ça. Est-ce que ça, c'est de quoi qui va aider à gérer les bugs, à diminuer le nombre de bugs introduits quand on génère du code? Peut-être au niveau des affaires pointues comme ça, de dire « moi, j'aurais pas de buffer overflow », mais il y a une grande catégorie de bugs en sécurité applicative que, de mon côté, je le vois au niveau de l'incompréhension entre différentes composantes. La majorité des bypass d'authentification que j'ai vu qui étaient très intéressants, c'est tout le temps des choses comme ça, c'est un système qui parle à un autre, puis comme un truc qui n'était pas clair entre les deux qui a pu être exploité. Puis même les dernières versions, là, tu sais, j'ai été le plus proche que je peux de Mythos, c'est mon Opus 4.6, 4.7. Les dernières versions, quand j'étais là-dessus, c'est très bon à creuser sur un point, mais quand que tu itères sur un sujet, il est un petit peu moins bon. Puis assez rapidement, si toi, tu le reguides pas dans bonne affaire, puis toi aussi, t'es perdu. Parce que sincèrement, mon use case de la semaine passée, que c'était ça, j'étais complètement perdu. Puis lui aussi, les deux, on était perdus, puis il était pas meilleur que moi, puis il m'a pas rattrapé. Fait que c'est qu'il faut qu'on garde un peu la maîtrise de ça, mais en même temps qu'on se rappelle qu'il y a quand même des limitations, même si c'est super humain pour trouver des failles, il y a d'autres types de failles qui vont être peut-être beaucoup plus compliquées ou qui vont coûter plus cher à régler. En fait, de thinking process, tu sais, qui brûle des tokens, dans le fond. Là. Donc, ça, je pense qu'il faut faire comme attention. Fait que, tu sais, Mythos, oui, il a l'air d'être très bon pour les affaires pointues qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Encore là, allez lire le blog post du Red Team. Mais j'ai pas vu une grande différence dans les résultats de bench, parce que de toute façon, ils sont déjà au maximum. Puis je suis même pas sûr qu'on a un bench qui dit est-ce que vous produisez du code sécuritaire ou pas. Je me rappelle plus avoir vu ça. C'est juste le SWE bench puis les trucs quand même. Donc, on n'est pas encore là. La journée qu'on benchera pour la sécurité applicative, là, je vais commencer à avoir plus une opinion dessus puis voir. Mais les benchmarks, un peu comme que tu as dit, c'est très difficile parce que les compagnies, ils font beaucoup de marketing.
Oui, il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'intentions de valorisation boursière ou potentielle valorisation boursière qui est en arrière de ça. Donc, c'est un peu traître, ces informations-là. Si on bascule complètement de l'autre côté, les modules, les modèles OpenWhite, parce que ça fait référence à Gemma, par exemple, comment ceux-ci peuvent s'articuler dans le paysage pour les personnes qui font du développement, de protection ou de faire du code?
Ouais. Puis même à l'attaque, dans le fond, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre de certains de ces modèles-là? Gemma, à qu'est-ce que je comprends, lui, il y a probablement des protections incluses au niveau d'une phase de post-training ou peut-être même dans le training, mais est inclus dans le modèle. Mais il y a d'autres modèles locaux que vous allez pouvoir trouver que eux vont être comme qu'est-ce qu'on appelle complètement débarrés, qui vont vous laisser faire n'importe quoi pour la sécurité parce que souvent, les modèles qui ont des protections pour pas que les gens les utilisent de manière malicieuse, mais comme ils vont s'empêcher de répondre à des choses ou ils vont répondre un petit peu moins bien. De ceci dit, en local, le truc qui est le fun, c'est que là, tu contrôles un petit peu plus le coût. Puis, il y a aussi comme une rapidité si vraiment vous avez des bons systèmes. Là, les petits modèles comme ça vont être plus rapides. Donc, quand on parle de la diversité là, de gros modèles, là, je le vois aussi qu'il y a des tâches qui vont être plus efficaces à faire avec des petits modèles. Donc, admettons, de chercher dans votre code base où est-ce qu'ils sont les endroits qui ferait en sorte qu'il peut avoir de l'authentification et donc qu'il pourrait avoir des problèmes d'authentification dedans. Vous prenez un petit modèle de pour faire ça qui ne vous coûte pas cher, qui se fait localement, qui va vous sortir des points, puis vous envoyez ça dans une genre de pipeline qui l'envoie à un plus gros modèle puis qui est lui le crunch. Donc, si on veut être efficace, si on veut gérer les coûts de meilleure manière, moi, je pense qu'on va devoir faire ça. Donc, c'est vraiment un mix de, genre, on sait qu'on peut avoir des modèles qui sont débarrés versus on a des modèles qui coûtent moins cher puis qui roulent plus vite en local puis des faire fonctionner comme ça pour être capable de dire ben je rajoute à ma diversité de qu'est-ce qui se passe.
Ouais, c'est intéressant. Puis tu reviens souvent sur la diversité. Comment tu envisages ça, que ça va se matérialiser, cette diversité-là ou cette collaboration-là entre les modèles ou comment on peut faire en tirer un bénéfice réel d'aller dans cette direction-là sans se ruiner là, parce que ça peut devenir très, très dispendieux très rapidement. Là.
Bien là, dans les gros joueurs qu'on a présentement, si on regarde les grosses compagnies que je nommerai pas, mais qui sont aux États-Unis, genre, eux vont recopier les différentes fonctionnalités des autres. J'ai comme un hot take là, sur les modèles là, que les gens sont plus ou moins d'accord là-dessus, mais quand tu parles à des data scientists, ils font comme oh, « c'est pas complètement fou ». Les modèles n'ont pas tant été améliorés que ça dans la dernière année, en fait. L'instrumentalisation des modèles, qui est primordiale pour qu'ils fonctionnent vraiment mieux, elle a été vraiment beaucoup augmentée. Donc, le boost qu'on a est là-dessus. Puis, l'autre boost qu'on a, qui a commencé à être vraiment boomy, à exploser en début de l'année passée, de mon point de vue, est que la Chine nous amène des modèles plus open source, donc ouverts. Puis la Chine, ont monté comme... Ils ont comme une genre de culture intéressante que il y a des gens de tout ce qu'ils font, c'est optimiser les modèles de, pour qu'ils roulent de, sur des machines moins bonnes. Donc, autrement dit, s'il y a un gros modèle qui m'intéresse pour faire, moi, je sais pas rien, pour le faire de la génération d'images ou de la revue de code, des trucs comme ça, mais que je peux pas rouler à la maison là, parce que j'ai pas un assez bon GPU, ben je regarderais pas s'il y aurait une version chinoise qui est quantitative, puis devinez quoi, toutes les affaires qui sont open source, de un, la majorité viennent de la Chine, puis de deux, ben il y aura tout le temps genre des individus ou des groupes d'individus qui vont relancer ça de manière optimisée. Donc, on rajoute dans la diversité, puis on rajoute dans l'open source, puis ça, moi, j'aime ça. T'sais, on devrait pas juste se dire, notre usage du AI, c'est on paye des tokens à un API provider, ça devrait pas juste être ça, on devrait regarder les autres trucs aussi.
Parce que tu parles de fait de découpler l'entraînement des moteurs, des modèles, versus son utilisation, on devrait découpler justement pour permettre davantage que tu de choisir et d'aller comme ça. Puis dans le fond, c'est un peu ce que les Chinois nous amènent à découpler l'entraînement de son utilisation. Puis qu'ensuite, on loue ce qu'on veut et on l'utilise un peu comme on veut. Là.
Ouais, et puis la flexibilité qu'on va avoir aussi. Nous vient de ne pas être dépendant de qu'est-ce que de chaque fournisseur a décidé qui était la bonne affaire à faire. Pour en venir à mon talk, puis dans les stratégies que je donne, en sécurité de chaque compagnie arrive avec, je dis les bonnes pratiques, mais dans le fond, c'est sa gouvernance aussi pour la sécurité, va être différente parce que le niveau de risque accepté et acceptable en fonction de qu'est-ce qu'ils font comme domaine d'affaires va changer. Fait que, si on est tous dans un même LLM, qu'on lui donne rien de vraiment personnalisé, qu'on lui dit « vas-y, fais-moi un travail, produis-moi de quoi », ben le résultat va peut-être avoir de l'air bon, mais il ne sera peut-être pas aligné avec la tolérance de risque de votre entreprise. Il ne sera peut-être pas aligné avec tous les efforts de sécurité qu'on a mis dans l'entreprise dans les 20-30 dernières années. Maintenant, on les balance tout par le mur parce qu'on génère du nouveau software. Malheureusement, dans certains cas, oui. Dans les gens qui sont plus sérieux et tout ça, je penserais qu'ils arriveraient avec des stratégies un peu comme que je dis, de dire on va faire attention quand on génère, on va essayer de réviser des trucs comme ça.
Avec des structures. Donc toi, tu étais vraiment dans un contexte où on pré-prompt, si tu veux, vraiment l'encadrement sur la culture de l'entreprise qu'on met dans le modèle, qu'on utilise le ou les modèles, parce que tu reviens souvent sur le fait de l'utiliser la diversité de modèles pour avoir un maximum de résultats de diversification. Point de vue vérification, mais point de vue génération, est-ce que tu es dans la même posture?
Oui, parce que la génération, autant que la revue, si la génération, tu lui donnes pas des guides sur comment faire, et il va juste utiliser les choses les plus probables qu'il a vues dans son training dataset, mettons. Donc, malheureusement, là, récemment, c'est peut-être moins pire, mais admettons si on prend la moyenne de la dernière année, OK? En moyenne, lorsqu'on demande à un LLM de juste produire un système, l'exemple de la base de données qu'on a nommée tantôt est très bon là-dessus, c'est que, il ne fera pas nécessairement des choses qui sont vraiment sécuritaires là, parce que les exemples qu'il a vus sur Internet étaient incomplets au niveau de la sécurité ou c'était carrément... Ben, la documentation de ce système-là ou de ce framework-là qui est utilisé va pas nécessairement dire aux gens de par défaut de rendre les choses plutôt sécures. Genre, c'est aller creuser un peu plus loin, puis des fois, ben, il va arrêter de sa conclusion là, parce qu'il va en avoir assez produit, puis il va dire là, il faut que j'écrive le code. Donc, en le réorientant un peu, je pense qu'on va arriver à des bons résultats. Du niveau personnel, dans mes recherches à moi, je suis pas encore rendu là. Je me sens encore plutôt focusé avec les revues et tout ça, mais j'ai un plan de cette année. C'est comme le truc qui est le plus important dans mon roadmap de cette année, dans ma recherche personnelle, dans le travail que je fais, c'est de dire, OK, je veux qu'on arrive avec une génération de code qui est alignée avec nos bonnes pratiques d'entreprise, nos politiques, notre gouvernance, puis qui fait en sorte qu'on regarderait le produit final, que là, mais que j'arrive à l'étape de la revue. La revue va me donner des résultats qui sont un petit peu moins... qui trouvent un peu moins de choses dans le fond. Puis même moi, quand je regarde un système qui a été produit après, mon but, c'est qu'il y ait moins de choses. Fait que ça, c'est un autre point dans mon temps qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est que je propose des mesures aussi. Parce qu'on a dit, oh, on veut être critique, mais oui, il faut être critique et mesuré. Fait que c'est pas tout le temps des benches, mais c'est un peu dans ce principe-là.
Oui, ben en termes de mesures, est-ce que tu peux donner des exemples? Tu en as donné un peu, mais est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux nommer justement pour nous aider à avancer correctement dans tout ça?
Donc, je suis en train de tricher puis de regarder mes slides présentement, voir si je trouve le truc intéressant.
La sécurité, c'est un monde où on apprend à tricher le système. Fait que...
Ouais, est-ce que c'est tricher si c'est moi qui ai les slides? Je sais pas. Ben en gros, c'est pas mal de ce que je viens de dire un peu avant, t'sais, de regarder. OK. Les mesures ne sont pas nécessairement différentes entre les performances des êtres humains à faire de la sécurité applicative versus les performances d'un IA, parce que c'est comme le même genre de processus cognitif de pseudo-réfléchir à une affaire puis de l'appliquer. T'sais. Donc, si on regarde la progression, admettons, du nombre de lignes de code, là, que ça a l'air que ça, c'est assez populaire, même si ce n'est pas vraiment une très bonne métrique pour plein de choses, mais si vous générez des tonnes et des tonnes de lignes de code, puis que votre nombre de lignes de code est exponentiellement plus haut, inévitablement, genre comme que ça, c'est comme une loi en informatique de dire ben le degré de complexité est égal à plus de failles probables, donc il va en avoir plus. Donc, si vous faites juste générer du code, puis que ça va tout le temps en montant, vous ne faites jamais de réusinage, du refactoring, puis des trucs comme ça, ben vous allez vous ramasser avec un nombre extrêmement grand de code pour la grosseur de vos entreprises. Puis, il y a un truc que j'ai observé assez récemment, pour revenir à mon bon vieux Opus 4.7 qui est sorti la semaine passée. Je génère du code d'infrastructure avec. Ça va super bien, c'est fantastique. Puis, ça me coûte environ 5 $. OK? J'ai comme un petit UI là, comme Kingdom, comme le coup tout ça. Puis, j'ai bien fait ça, j'ai réfléchi, j'ai pensé à tous mes principes de sécurité. J'y ai dit, j'ai donné des exemples, tout ça. Fait que j'ai fait le travail un peu comme que je vous dis de guider la génération de code. Dans mon cas, c'est du code d'infrastructure, mais ça compte comme du code quand même, de la configuration à ce niveau-là. Puis, il m'a donné un bon résultat. Mais à un moment donné, il y a de quoi que je trouvais que c'était dans le méthode de la chose, dans la vue globale, j'aurais préféré que le truc soit fait un peu différemment. Fait que là, j'ai fait comme « Ah oui! » J'aimerais ça faire un réusinage de ce code-là qu'on vient de générer pour 5 $. Puis, est-ce que tu peux faire ça? Puis là, il fait comme oui, je vais faire ça, ça, ça. Je dis OK, go. D'après toi, ça m'a coûté 5 $ généré. Ça l'a coûté combien réusiner?
Probablement, j'imagine le dos, j'imagine 10.
On est presque pile dessus. Ça a coûté 11 $, qui est un petit peu plus que le double. Ce qui est assez incroyable parce que c'est qu'il faut se rappeler que je viens juste de dire que j'ai passé 2-3 heures à générer, que ça m'a coûté 5 piastres de IA, mais j'ai passé 30 secondes à y demander à refactorer, puis là, ça m'a coûté plus que le double. Donc, autrement dit, si on scale ça à un nombre plus grand de personnes qui va générer du code, s'ils réfléchissent pas, c'est encore pire, mais je vais supposer que les gens réfléchissent un peu. Là, je me croise les doigts.
On est encore un peu dans cette époque-là où on réfléchit encore un peu.
Donc, mais tu sais, ils peuvent réfléchir, mais pas à la sécurité. Fait que tu sais, là, ça peut rester un problème quand même. Mais genre, j'ai vraiment l'impression que là, si tu génères une tonne de code, là, la journée que les choses y tiennent moins ou qu'on va se rendre compte que des attributs de sécurité n'ont pas été respectés ou on a des nouveaux types d'attaques ou une nouvelle vision des choses qu'on veut que ça soit plus sécuritaire, on arrive pour l'appliquer. Puis là, ben, le truc vient de nous coûter, je sais pas, 3000 $ de tokens sur 3 mois. En 5 minutes que moi, je vais arriver, je vais dire qu'il faut faire une revue, puis il faut refactorer parce que la revue a trouvé ça. Ben là, ça va avoir coûté du 3000 original, ça va avoir coûté 1000 pour la revue, puis ça va m'avoir coûté plus que 6000 à faire le refactor. Donc là, on voit que les coûts vont exploser. Fait qu'on n'a pas fini de faire exploser les coûts, là, dans le fond, là, comme c'est ça que je t'aimerais dire.
Oui, mais c'est plein de surprises. L'autre aspect, puis je vais prendre un pas de recul, puis on va conclure sur ça. On parle beaucoup du fait que, on parlait notamment de la base de données, des choses comme ça, c'est que par défaut, les infrastructures ne sont pas sécuritaires. C'est dans le sens que la configuration, c'est toujours wide open. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Et on a certains grands joueurs qui ont fait beaucoup de marché sur cette approche-là. Est-ce qu'on est rendu au moment où il va falloir que les infrastructures qui nous soient fournies soient justement à l'inverse, complètement fermées et justement en présumant que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de fermer, mais il va être capable d'ouvrir, faire plus grand et donc d'augmenter la sécurité en allant de l'autre côté?
C'est un très bon point parce que tu viens de me faire penser à ça puis je viens de réaliser que les LLM ils ont aussi tombé dans le panneau. La raison pour laquelle que les différents fournisseurs de cloud, d'infos nuagiques, pour essayer de rester en français, ils sont insécures par défaut parce qu'ils sont là, je vous le garantis, vous ouvrez un bucket dans un, puis vous allez voir, il est ouvert à tout le monde, tout ça. Il y en a qui ont fixé ça un peu, mais il y a plein de choses comme ça, si vous creusez un peu, que vous allez voir qu'il est ouvert par défaut. Mais la raison, c'est qu'on veut de l'adoption, on veut de la clientèle le plus possible, on veut que ça soit le plus facile possible, puis que ça vous donne les résultats les plus rapides. Puis malheureusement, tout ce qui est sécurité, c'est tout le temps un peu un frein à la rapidité parce que c'est comme, ah oui, mais là, est-ce que tu as pensé à resécuriser, mettons, si tu prends ton bucket? Ah, mais là, genre, il faut que tu trouves les utilisateurs, tu trouves leur manière de les authentifier, il faut que tu rajoutes dans le système, fait que ça recomplexifie de beaucoup. Puis je pense que malheureusement, c'est ça que je viens d'allumer, c'est que les LLM au début, il était vraiment focus à on va vous livrer des choses le plus vite possible. Fait qu'on était à la course de c'est quoi qui peut coder le mieux, le plus vite. Donc, on court à l'adoption aussi. Puis cette course à l'adoption-là, malheureusement, vu qu'elle est tout le temps fonctionnelle au niveau de la programmation, la pauvre petite de sa sécurité applicative qui arrive à la fin puis qui est comme « Hey, m'avez-vous oublié ou pas? » Puis là, on se rend compte que « Ah, oups, les coûts augmentent, le temps augmente, la complexité augmente, puis on ne l'a pas pensé dès le début. » Fait qu'on paye pour la vitesse d'adoption, c'est ça mon point.
Cool. Merci énormément pour cette conversation-là. Ce jour très intéressant d'échanger puis de voir ton point de vue, comment les choses se matérialisent devant nous un peu. Puis dans le fond, c'est dans le thème de l'événement, comme tu me mentionnais. On réfléchit l'avenir. Je pense qu'on réfléchit plus à demain qu'à l'avenir à l'heure actuelle. Mais merci énormément. C'est très apprécié.
Merci beaucoup.